SBS Radio.
Des cris d'alerte pour stopper deux nouvelles centrales au charbon en Nouvelle-Galles du Sud. Et en France, l'ONU demande d'enquêter sur un usage excessif de la force contre les gilets jaunes. Et la Corée du Nord dans le collimateur après la parution d'images montrant la reconstruction d'un site de lancement de roquettes. L'opposition fédérale et des militants écologistes demandent au Premier ministre et à l'État de Nouvelle-Galles du Sud de mettre un terme au projet de construction d'une nouvelle centrale électrique au charbon dans la région du Hunter Valley. Un accord préliminaire a été signé entre l'entreprise d'État chinoise China Engineering Corporation et la société australienne Cavcorp pour la construction des deux centrales au charbon d'une capacité de 2000 MW dans la région et selon les écologistes, ce plan est insensé. Le député libéral Craig Kelly dit que ce plan répond exactement à l'attente de l'Australie. Son homologue et sénateur libéral Zed Cecilia dit quant à lui que le gouvernement fédéral n'a toujours pas pris une décision à ce sujet. Écoutons-le.
Well, the government has a policy of getting more energy into the system, more reliable, more affordable energy, and we will see what stacks up based on all of those factors.
Le gouvernement fédéral australien a décidé de rouvrir le camp de détention des migrants à l'île de Christmas Island pour y faire soigner des demandeurs d'asile actuellement détenus dans les camps australiens à l'étranger. Cette décision est vivement critiquée par un chirurgien qui, à une certaine époque, avait lui-même été détenu sur cette île australienne située dans l'océan Indien. Selon le docteur Munjed Al-Mudaris, le personnel médical de Christmas Island n'était pas compétent pour traiter des cas complexes. Le chirurgien ajoute qu'à l'état actuel, Christmas Island n'est toujours pas suffisamment équipé pour servir de centre d'évacuation médicale.
Christmas Island is very small, and to my knowledge, the facility is very basic, and it's not a place where people can be referred to. It's a place where you can triage patients and then transfer them to the mainland or offshore.
Entre-temps, le président du comté de Christmas Island, M. Gordon Thompson, souligne que le gouvernement fédéral n'a toujours pas informé la population locale des conditions de la réouverture du centre de rétention. S'adressant à la ABC, M. Thompson dit avoir demandé un entretien avec le premier ministre Scott Morrison pour discuter de l'avenir économique de l'île et aussi de la situation donc de réouverture de camps, mais sa demande est restée sans suite.
Christmas Island is feel that we're a convenience, a political convenience for a government in power that is under threat. And we see that very clearly. There is no one on Christmas Island who doesn't understand what this is all about.
Et en France, hier, la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a réclamé une enquête approfondie sur les violations policières qui se seraient produites pendant les manifestations des Gilets jaunes qui donc ont lieu tous les samedis depuis la mi-novembre. Dans un discours prononcé devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, Michel Bachelet a déclaré que les Gilets jaunes manifestent contre ce qu'ils considèrent comme leur exclusion des droits économiques et leur participation aux affaires publiques. Le gouvernement français n'a pas tardé à réagir en indiquant qu'il n'a pas fallu attendre le rapport de l'ONU pour commencer des enquêtes sur des éventuelles exactions policières. Écoutons à ce sujet la réaction de Jean-Baptiste Djebari, un député de La République En Marche.
Si j'ai bien lu, l'ONU ne réclame pas une enquête, mais dans un rapport assez volumineux, elle pointe deux occurrences pour lesquelles la France, effectivement, à ses yeux, n'a pas respecté certaines recommandations. C'est pas la première fois d'ailleurs que l'ONU recommande des choses à la France. En revanche, ce qu'a dit Christophe Castaner, je suis assez en ligne avec lui, c'est que de pointer certains excès prétendus de la France au milieu du Venezuela ou d'Haïti ou d'autres pays qui ont subi des violences, pour le coup, populaires, qui ont fait plusieurs dizaines de morts, c'est 41 personnes tuées en Haïti par exemple, ça paraît tout à fait excessif. Et donc la France accueille le rapport de l'ONU et le lit avec attention, mais les comparaisons paraissent quand même aujourd'hui un petit peu hors de proportion.
Au total, il y aurait 11 enquêtes déjà en cours, mais la députée Caroline Fiat de la France Insoumise, elle dit ne pas être surprise par la demande de l'ONU à la France.
C'est un constat lucide de la situation actuelle qu'on dénonce nous depuis plusieurs semaines et ça fait plusieurs semaines que nous, la France Insoumise, dans l'hémicycle, on n'arrête pas de réclamer une enquête, de demander des solutions pour qu'arrête cet usage excessif de violence envers les Gilets jaunes. C'est dommage d'attendre que l'ONU, qui n'aurait peut-être pas à interférer dans le sujet, soit obligée d'en parler pour que peut-être il y ait une réponse politique. Je dis bien peut-être parce que pour le moment on n'entend pas de réaction positive sur le fait de répondre à cette demande de l'ONU.
Et toujours en France, au lendemain de l'agression des deux surveillants pénitentiaires par un détenu radicalisé, la prison d'Alençon, en Condé-sur-Sarthe, était bloquée hier matin par le personnel pénitentiaire. Ce mouvement de protestation s'est étendu à de nombreux autres établissements en France. Reportage Simon Roset de RFI.
Dès 6h ce matin, les portes de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogy étaient closes. Action de l'intersyndicale pénitentiaire en soutien aux deux collègues agressés la veille à Condé-sur-Sarthe, Thibaut Capel de Force Ouvrière.
Étant donné que les collègues ne pouvaient pas venir travailler, au bout d'un moment les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les organisations syndicales. Donc on a encore une fois envoyé les forces de l'ordre contre des forces de l'ordre. Voilà comment ça se passe aujourd'hui en France quand on nous amène un attentat qui se commet dans une prison.
Une action policière qui ajoute de la colère à la colère des gardiens de prison, de plus en plus confrontés à la question des détenus radicalisés.
On fait avec ce qu'on a. On a plusieurs possibilités d'hébergement pour eux, que ce soit à travers les CAIR, que ce soit à travers le quartier d'isolement, mais le plus gros de la masse reste encore en détention classique. Donc là où ça va commencer à devenir problématique, c'est que vous avez aujourd'hui un surveillant pour gérer 80 détenus. Et là-dedans, on va devoir justement gérer les détenus radicalisés. Donc la question terreau n'est que le summum en fait. Finalement, oui, ce seront des agressions beaucoup plus violentes, on est sur de l'attentat terroriste, ça il faut bien le rappeler, mais le quotidien des pénitentiaires, c'est agression tous les jours. Depuis le début de l'année, les organisations syndicales ont relevé 101 agressions.
Le mouvement va continuer. Le mot d'ordre est lancé pour un nouveau blocage dès demain, jeudi, à 6h du matin.
Et en Syrie, donc plutôt la communauté internationale, continue de s'interroger sur le sort des anciens combattants de l'État islamique qui désirent quitter la Syrie et retourner dans leur pays d'origine. En effet, des centaines de combattants de l'État islamique continuent de capituler et beaucoup d'autres ont été capturés alors qu'ils fuyaient le dernier bastion de l'État islamique à l'est de la Syrie. Un grand nombre d'anciens combattants qui s'étaient retranchés dans la localité de Baghouz continue de se rendre suite à une offensive féroce lancée par les SDF, les forces démocratiques syriennes appuyées par les États-Unis. Soulignons que les SDF ont temporairement ralenti leur offensive pour permettre à des centaines de civils de quitter le village. Et les SDF indiquent cependant qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'ils ne l'avaient cru. Écoutons cet adolescent de 13 ans, une fille d'un membre de l'État islamique qui voudrait rentrer dans son pays d'origine en Europe.
So many families, they burned because of the bombings, and now it's terrible.
And you're only 13 years of age. Your mum and dad brought you to the Islamic State when you were 8. What will you do now?
I don't know. I just want to go to Finland.
Et hier, les États-Unis ont consulté leurs alliés après l'échec du sommet de Hanoï. L'émissaire américain pour la Corée du Nord a rencontré hier à Washington ses homologues sud-coréens et japonais pour faire le point sur ces négociations qui n'ont abouti à rien. Cette rencontre d'hier a eu lieu alors que des nouvelles photos semblent montrer que Pyongyang a entrepris de reconstruire un site de lancement de missiles. Monsieur Trump espère que cette nouvelle donc de reconstruction d'un site de lancement des roquettes ne soit pas vérifiée et si elle l'était, Monsieur Trump se dit qu'il serait très déçu.
I would be very disappointed if that were happening. It's a very early report. We're the ones that put it out, but I would be very, very disappointed in Chairman Kim and I don't think I will be, but we'll see what happens. We'll take a look. It'll ultimately get solved.
Plutôt, il faut signaler que le conseiller à la sécurité blanche, M. John Bolton, avait prévenu la Corée du Nord que le pays pourrait se voir infliger de nouvelles sanctions. Et au Venezuela, le gouvernement a annoncé hier avoir décidé d'expulser l'ambassadeur d'Allemagne à Caracas. L'ambassadeur est accusé d'ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela. Et l'ambassadeur d'Allemagne a été déclaré persona non grata et prié de quitter le pays dans les 48 heures. Reportage Stéphanie Schuller pour RFI.
Ce lundi, Daniel Kriner, accompagné d'une douzaine de diplomates européens et latino-américains, s'était rendu rendu à l'aéroport international de Caracas pour y accueillir l'opposant et président par intérim autoproclamé Juan Guaido. Celui-ci revenait d'une tournée en Amérique latine alors qu'il avait été interdit de sortie du territoire. « Nous sommes là pour aider afin qu'il puisse rentrer en toute sécurité », avait alors déclaré l'ambassadeur d'Allemagne aux médias avant de souligner, je cite, « le rôle très important de Juan Guaido dans la résolution de la crise au Venezuela ». Des propos jugés inacceptables par le gouvernement de Nicolas Maduro qui accuse Daniel Kriner d'outrepasser son mandat de représentant diplomatique en s'alignant publiquement sur l'opposition vénézuélienne. À Berlin, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a estimé que cette décision, selon lui, incompréhensible du gouvernement Maduro, ne faisait qu'aggraver la situation avant d'annoncer le rappel de son ambassadeur pour consultation. Reste à savoir si Daniel Kriner retournera ensuite à Caracas. Le gouvernement allemand a fait savoir qu'il était en train de coordonner sa réponse avec ses partenaires internationaux au Venezuela. Sur place, Juan Guaido a déclaré ce mercredi que Nicolas Maduro n'avait plus les compétences pour expulser un diplomate étranger.
Et un mot de l'économie, eh bien la croissance mondiale, selon l'OCDE, la croissance mondiale est au plus bas depuis 2016. Il faut signaler qu'après 3,6% de croissance l'année dernière, eh bien cette année, la croissance devrait s'établir à peine 3,3% seulement. Et ce ralentissement devrait continuer en 2020, selon toujours l'OCDE. Et il faut signaler que l'OCDE emboîte le pas au FMI, revoit à la baisse donc sa dernière prévision de croissance mondiale de novembre dernier. La zone euro est la plus touchée, avec une croissance qui ne devrait pas excéder 1% cette année, contre les 1,8% attendus il y a encore 3 mois. Et un coup d'œil météo pour ce jeudi, Perth 27 degrés, Adélaïde 26, Melbourne 23, Hobart 21 degrés, Canberra 24, Wollongong 21, Sydney 24, Newcastle 25, Brisbane 32 degrés, Cairns 32 et Darwin un maximum de 35 degrés. Et à la bourse, un dollar australien vous achète aujourd'hui 70 centimes de dollars US et 62 centimes d'euros. Place à présent un rappel des titres avant de passer au magazine des sports. Des cris d'alerte pour stopper deux nouvelles centrales au charbon dans la région de Hunter Valley en Nouvelle-Galles du Sud. Et l'ONU demande à la France d'enquêter sur un usage excessif de la force contre les gilets jaunes. Et la Corée du Nord dans le collimateur après l'apparition d'images montrant la reconstruction d'un site de lancement de roquettes.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.